N'oubliez pas la pleine lune, onde femme. Radio Zone dans votre bas de laine, quand vous le déposerez, dites au Père Noël, ou plutôt à la Mère Noël, qu'elle n'oublie pas nos petits cadeaux. En tout cas, vous pouvez participer à ces cadeaux en achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur. Vous nous téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Lausanne, ou vous nous écrivez à onde femme, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Dans quelques instants, les informels, nos nouvelles et le memento. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone, nos nouvelles. Aux États-Unis, élection le 6 novembre d'une femme noire à la mairie de Washington. La Lady à l'appel, c'est ainsi que le New York Times surnomme Sharon Dixon, la première femme à accéder au poste de maire de Washington. Car en effet, Sharon Dixon a porté une pelle en insigne pendant la campagne électorale. Un balai ne suffirait pas, disait-elle, pour nettoyer la mairie. Première femme noire élue à la tête d'une ville importante aux États-Unis, elle occupera officiellement son poste à partir de janvier prochain. Le dernier maire noir de Washington, Marion Barry, a été démis de son poste car on l'avait trouvé en train de fumer de la cocaïne. Au cours de la campagne électorale, on a dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle n'était pas connue, elle avait moins de fonds et de personnel que les autres candidats. C'était une femme, elle avait la peau trop claire, dans une ville à 70% noire, mais trop noire pour les 30% restants. Elle manquait de chaleur, elle était trop dure, qualité qu'on admirait pourtant chez son opposant. Mais on craignait aussi qu'elle ne soit pas assez dure, ou qu'elle n'ait pas assez de poigne pour gouverner et motiver l'énorme bureaucratie dont elle promet d'éliminer 2000 paperassiers. Et elle a emporté avec 86% des voix un raz-de-marée. Les problèmes à résoudre sont formidables. Réformer le système d'éducation et le gouvernement, offrir des opportunités économiques, lutter contre la drogue et la délinquance, résoudre la crise financière, quel mandat ! En URSS, la pénurie alimentaire s'aggrave. On voit approcher le spectre de la famine. L'aggravation de la situation alimentaire en Union soviétique est telle que la Pravda posait crûment la question à la une. La famine nous guette-t-elle ? La pénurie de viande, de pommes de terre et de produits laitiers atteint désormais les bastions industriels de l'URSS et menace le fonctionnement normal de l'économie. À Moscou, le sel, l'huile de table et le beurre ont pratiquement disparu de la circulation. La vente d'œufs est limitée à 10 par personne. La pénurie concerne le pain, absent quelquefois pendant plusieurs jours des rayons, les cigarettes, les pâtes, le sucre, le thé, les vins et la vodka qui, eux, sont fabriqués clandestinement et vendus deux fois le prix officiel. Les achats de produits alimentaires à Leningrad et à Moscou sont déjà réservés aux habitants détenteurs de permis de séjour. Les régions agricoles conservent par devant elles leur production et refusent d'exporter dans les autres républiques. Les énormes problèmes de distribution représentent à court terme le principal obstacle aux réformes entreprises par Mikhail Gorbatchev. La pénurie atteint dans certains quartiers des proportions difficilement imaginables et il y a encore quelques mois. Les rayons sont vides la plupart du temps. Certains magasins ont même décidé de fermer, expliquant par une petite note sur la vitrine qu'ils n'ont plus rien à vendre. Au Sri Lanka, le 4 novembre, un commando composé exclusivement de femmes, des séparatistes tamouls, s'est emparé d'un camp militaire à Jaffna. Bilan, 11 soldats et 15 rebelles tués. En Arabie saoudite, certaines femmes essayent de relever la tête, même sous le voile. Les saoudiennes n'ont pas le droit de sortir sans être accompagnées d'un homme de leur famille. Elles n'ont pas non plus le droit de conduire. Mais beaucoup d'elles ont en poche le permis de conduire décroché en Occident, où elles ont suivi leurs études. Le 4 novembre, 70 riches saoudiennes se sont assises comme d'habitude à l'arrière de leur Mercedes ou de leur Buick. Elles ont dit à leur chauffeur de les mener au grand supermarché de Riyad. Une fois arrivées au parking, elles ont ordonné à leur boy de descendre. Puis elles ont pris le volant et sont parties, pare-choc contre pare-choc, en cortège dans les avenues de la ville, la police à leur trousse. Victoire islamiste en Jordanie. Les frères musulmans ont remporté mardi la présidence de la Chambre des députés pour la première fois dans l'histoire de la Jordanie, renforçant ainsi l'influence des islamistes dans le royaume. San Salvador, offensive de la guérilla. Offensive lancée mardi à l'aube par les forces de la guérilla salvadorienne contre plusieurs villes du pays. Cette offensive a fait au moins 40 victimes, morts et blessés. Le Front Farabundo Martí de Libération Nationale a lancé mardi une offensive que les rebelles ont qualifiée de limitée contre plusieurs villes de province. À Genève, manifestation du groupe Greenpeace devant le GATT contre les manipulations génétiques. Une vingtaine de militants de l'organisation écologiste Greenpeace ont manifesté mardi matin devant le bâtiment du GATT à Genève pour protester contre les négociations qui se tiennent actuellement en coulisses et qui visent à instaurer un brevet pour les inventions en biotechnologie et dans les domaines de les manipulations génétiques. Il s'agirait donc de pouvoir breveter des espèces vivantes manipulées génétiquement. Parallèlement à cette action, une lettre ouverte a été envoyée aux chefs d'État, pays membres du GATT, pour leur demander d'exclure explicitement le brevetage des ressources génétiques de l'accord sur la protection internationale de la propriété intellectuelle. Alors que les ressources génétiques sont depuis des centaines d'années l'héritage de l'humanité, des sociétés multinationales tentent de se les approprier pour pouvoir les commercialiser. En Suisse, comme en Italie, en Belgique et dans d'autres pays de l'OTAN, l'armée secrète anticommuniste, l'opération Glaudio en Italie, a bel et bien existé sous la houlette protectrice d'une partie de l'État et de l'armée, qui aujourd'hui essaye de brouiller les pistes. Ainsi, des photos de membres de l'armée secrète prises en Irlande ont été détruites par un policier bernois, contre qui une procédure disciplinaire est maintenant ouverte. Le fonctionnaire de la police cantonale bernoise a détruit une partie des documents sur les services secret qu'il a retrouvé chez le journaliste Herbert Albos, trouvé assassiné à son domicile en avril dernier. Le policier avait été chargé de classer les documents et de les transmettre aux services compétents du département militaire fédéral. Parmi les dossiers se trouvaient des photos de membres de l'armée secrète suisse chargés d'organiser la résistance en cas d'occupation du pays. Elles avaient été prises en Irlande au siège d'un éventuel gouvernement suisse en exil. Sur les conseils du colonel Albert Bachmann, qui avait dirigé l'organisation de résistance jusqu'en 1976, le policier bernois avait détruit quelques photos avant de remettre les documents au DMF, a précisé le juge d'instruction. Le journaliste Herbert Albot, âgé de 75 ans, avait annoncé peu avant sa mort à l'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire, condamné pour trahison en 77, qu'il avait l'intention de remettre au chef du DMF, Willigert, les documents en question. Mais il s'est fait assassiner par un mystérieux inconnu avant de pouvoir le faire, avant de pouvoir transmettre ses photos qu'un policier diligent a brûlées après la découverte du cadavre. Bizarre, bizarre.
Zurich, premier centre de rencontre pour filles. À Zurich, c'est ouvert fin octobre le premier centre de rencontre pour filles de la Suisse. Ce sont des animatrices qui ont eu l'idée d'avoir un tel centre, d'ouvrir un tel centre. Elles constataient que les centres pour jeunes subventionnés par la ville étaient avant tout occupés par les garçons et que les filles n'y avaient pas assez d'espace pour leur propre développement. Selon les initiatrices du Centre pour filles, ce centre devrait être un lieu où les filles peuvent se développer librement en mettant sur pied leurs propres activités. Il devrait les aider à exprimer leurs envies, besoins et peurs en vue de mieux et plus facilement trouver leur identité propre à elles. On y trouve une cafétéria et on y organise des cours d'autodéfense, des rencontres pour discuter des questions liées à la sexualité, à la formation et de toutes les autres préoccupations des usagères. Le financement du centre est garanti jusqu'à la fin de cette année seulement et ce sont des sous de dons de différentes institutions qui le font marcher. La ville de Zurich a refusé pour des raisons d'économie, on fait toujours des économies sur le dos des femmes, non, de financer ce projet. Les animatrices vont devoir continuer à chercher de l'argent de sources privées. Le centre pour filles est le premier du genre en Suisse. En Allemagne, on est plus progressiste. Plusieurs villes ont institutionnalisé ce genre de projet, et ceci depuis plusieurs années.
Conférence fédérative des femmes du syndicat des services publics avec un titre étonnant, promotion des femmes, rien ne va plus sans rendre visible le travail occulte. Cette conférence se déroulera les 30 novembre et 1er décembre prochains à Berne. Il y a 3 ans, la conférence des femmes du syndicat des services publics avait abordé le thème « Les femmes dans la société, les femmes dans le syndicat ». Elles avaient à l'époque discuté et adopté, entre autres, des revendications relatives à la promotion des femmes, à l'égalité des salaires et au harcèlement sexuel, points qui sont toujours d'actualité. Mais il y a une ombre au tableau. Des choses coincent au niveau de la réalisation. On se heurte toujours au même obstacle, à savoir à la répartition des tâches. Et c'est pourquoi le syndicat a décidé cette année de ne plus placer seulement le travail salarié au centre des réflexions, mais de considérer les structures de la division du travail dans la société tout entière. Si on veut que la situation des femmes change dans le monde du travail, on doit tout d'abord voir que dans le terme global, on doit également prendre tout le travail des femmes. Il s'agit donc de rendre visible le travail occulte, à savoir les tâches domestiques, les soins relationnels et les autres petits soins et la répartition de ces tâches entre hommes et femmes. Ce congrès se tiendra par atelier. 5 ateliers sont prévus. La politique familiale et sociale de l'État sanctionne-t-elle la division hiérarchique du travail entre hommes et femmes? Les tâches domestiques et les petits soins n'incombent pas seulement aux femmes. Le temps des femmes, les répercussions de la division hiérarchique du travail entre hommes et femmes sur la culture d'organisation et finalement un phénomène plus récent qu'on croit, l'évolution de la division du travail entre hommes et femmes. La conférence appellera bien entendu à la grève qui est prévue le 14 juin 1991 pour fêter les 21 années de l'égalité, un concept qu'on peut comparer à une savonnette bien glissante. Mais cependant, plusieurs autres professions ont décidé d'adhérer à cette grève. Ainsi, la Conférence fédérative des professions d'enseignantes a confirmé l'appel lancé lors du congrès de l'Union syndicale suisse en faveur de la grève nationale des femmes le 14 juin. Les jardinières d'enfants et les enseignantes du syndicat des services publics devraient donc débrayer ce jour-là, pour le moins de façon symbolique. Une demande a également été faite au comité directeur du syndicat de soutenir la grève et la journée d'action avec des moyens appropriés, y compris financiers. Toujours au niveau du syndicat en Suisse, des femmes portent plainte contre leur syndicat, le syndicat du livre du papier, qui est accusé. Le syndicat du livre et du papier signe pour la deuxième fois en peu de temps un contrat collectif de travail privant les femmes de l'égalité de salaire, pourtant ancrée dans la Constitution fédérale. La commission féminine du SLP et un groupe de collègues ne veulent plus tolérer cette situation. Elles ont déposé plainte auprès du tribunal de Berne et obtenu que le contrat ne puisse pour le moment être signé sous sa forme actuelle. Ainsi, selon le contrat collectif, les relieuses, femmes donc, devraient se satisfaire pour un travail à plein temps d'un salaire brut de 2 250 francs. Après déduction de la VS et des cotisations pour les caisses de pension, vu l'évolution des loyers, elles se retrouvent en dessous du minimum vital. Dans les mêmes ateliers de reliure, les hommes ont un salaire minimum garanti de 2 684 francs. C'est donc pour des motifs sociaux et constitutionnels que la commission féminine du SLP a exigé l'ajustement immédiat des salaires féminins. En effet, la Constitution fédérale interdit la discrimination salariale. Or, comme il y a 2 ans, lors de la négociation d'un contrat collectif pour l'imprimerie, les employeurs nient tout simplement le droit constitutionnel des femmes et les syndicats trouvent normal de capituler devant cette situation, d'autant qu'il s'agit de l'intérêt des femmes. Concrètement, la fédération patronale refuse d'adapter le salaire minimum des femmes. À son avis, l'égalité devrait être obtenue par tranche de 50 francs étalée sur 8 ans. Et les syndicats concernés couvrent cette attitude asociale et anticonstitutionnelle. Un des syndicats, le syndicat suisse des arts graphiques, a déjà signé ce contrat collectif. Le syndicat du livre et du papier avait déjà la plume en main quand le juge, à la demande des femmes, a interdit de signer. Le jugement définitif du tribunal de Berne est pendant. Le contrat négocié est si ouvertement anticonstitutionnel que même en Suisse, on ne peut imaginer qu'un juge cautionne cette discrimination. Malheureusement, même un jugement explicite ne signifie pas que les femmes concernées obtiendront le salaire qui leur est dû. Le Parlement, dont la majorité est constituée par des hommes et des bourgeois, a su empêcher jusqu'à aujourd'hui l'introduction d'une loi prévoyant des mesures concrètes pour forcer un employeur à payer. Les femmes obtiendront leur dû seulement si elles réussissent à exercer une pression nécessaire sur le syndicat, la fédération patronale et leur instance politique. Jusqu'au jugement définitif, il est donc interdit au SLP de signer ce contrat collectif. Mais les responsables du CLP ne se gênent pas d'avancer des arguments pour empêcher la commission féminine de se solidariser avec des collègues moins privilégiés qui ne peuvent assumer une confrontation avec les syndicats, justement en raison de leur situation difficile. Dans ce but, l'avocat du syndicat conteste la légitimation de la mesure de porter plainte. Aucune des plaignantes ne travaille dans la branche concernée, insiste-t-il auprès du juge. De ce fait, elles ne sont ni habilitées à porter la plainte, ni légitimées pour la procédure en cours. Au sujet de la question de salaire proprement dite, le SLP explique que l'ajustement des salaires minimaux par tranche de 50 francs sur 8 ans constitue tout de même une égalité forfaitaire après une période d'augmentation successive. À Genève, toujours, le groupe pour une Suisse sans armée lance un manifeste. Puisque à Genève, finalement, l'initiative a été gagnée, il faut, ils disent, appliquons à Genève les principes de l'initiative pour une Suisse sans armée et une politique globale de paix. Nous, sous-signés, revendiquons l'application à Genève des principes de l'initiative pour une Suisse sans armée pour une politique globale de paix, notamment par le démantèlement des institutions militaires, la non-application des peines prononcées contre les objecteurs, l'abolition de la taxe militaire et la réaffectation des ressources ainsi libérées à des mesures concrètes d'une société plus solidaire. En outre, nous exigeons des autorités genevoises que des mesures efficaces soient prises pour supprimer la fabrication, le commerce et le trafic d'armes sur la place de Genève. Par cet acte, nous nous engageons à soutenir toute action qui vise à mettre un terme à la logique militaire suicidaire. Genève, de par sa richesse interculturelle, est parfaitement indiquée pour montrer l'exemple qui encouragera les autres cantons et d'autres communes à suivre la même voie. Et le groupe appelle donc à signer ce manifeste. L'Assemblée annuelle des délégués de la Fédération suisse des journalistes a siégé à Bâle et a élu à sa présidence la genevoise Anne-Marie Lay. Un bastion de l'inégalité tombe au service d'incendie et de secours à Genève. Martine Rosset sera donc la première femme à s'engager chez les pompiers du canton de Genève. Depuis la loi cantonale du 25 janvier 1990, les femmes pouvaient effectivement devenir sapeuses-pompières, mais seulement volontaires, car chez les professionnels, la résistance était très forte. De fait, le règlement du service incendie et secours prévoit toujours que les professionnels soient incorporés dans l'élite, ce qui exclut les femmes et les étrangers. Elle n'est donc pas encore professionnelle, mais depuis l'été, elle est volontaire et donc le mot sapeuse-pompière est devenu une réalité. Cette première sapeuse-pompière du canton est donc viticultrice et elle dit « Je ne fais pas ça par défi ni par féminisme. Je fais ça parce que j'aime ça. C'est comme la moto. J'adore. » À Zurich, s'est ouvert un bureau pour les hommes violents. L'idée à la base du Mannenbüro, bureau pour les hommes, repose sur le principe que les hommes eux-mêmes peuvent faire quelque chose contre la violence dont ils se rendent parfois coupables. Et cet office a donc été créé en mai 1989 à Zurich. Un des responsables de ce centre dit « Nous condamnons évidemment la brutalité et considérons les agresseurs de tous bords comme tels pour lever toute ambiguïté. Mais si nous ne sommes pas conséquents, un organisme d'entraide pour brutes et violeurs, nous entendons en revanche épauler ceux qui manifestent la volonté de changer. » Les structures traditionnelles de la société qui donnent à l'homme la position du plus fort favorisent une certaine forme de violence. C'est la Maison des femmes battues de Winterthur qui a donné l'impulsion au projet du Mannenbüro. Des hommes, 10 hommes, tous bénévoles, s'en occupent actuellement. Le Mannenbüro reçoit en moyenne 20 appels téléphoniques par mois d'hommes habitant la région zurichoise. Il offre également des entretiens personnels et des discussions de groupe. Ceux qui appellent sont conscients de faire quelque chose de mal, dit un des responsables. Ils ne représentent qu'une infime partie des hommes violents, car la plupart considèrent la brutalité comme normale, les violeurs en particulier. Nous avons aussi remarqué que ceux qui nous téléphonent sont au bord de la catastrophe, leur femme étant partie ou menaçant de s'en aller. Beaucoup pensent que nous devrions ramener leur compagne sans qu'ils fassent quoi que ce soit. Le Mannenbüro cherche bien sûr de l'argent. La recherche de fonds s'est avérée très difficile jusqu'ici. Beaucoup de personnes et institutions qui ont été approchées sont d'avis qu'un tel bureau n'est pas nécessaire car c'est un sujet tabou dont on préfère ne pas parler. Un changement de société dans le sens d'une plus grande égalité entre hommes et femmes est selon les responsables nécessaire car l'inégalité favorise l'éclosion de la violence au sein du couple. En parlant de violence, parlons aussi de la violence des femmes qui souvent ne s'expriment pas, les colères sont rentrées, et bien ces colères rentrées peuvent être fatales. Les femmes qui contiennent leur colère peuvent penser qu'elles font preuve de politesse ou de gentillesse, mais elles doivent aussi savoir qu'elles mettent leur vie en danger. C'est ce qu'a révélé une chercheuse de l'Université de Michigan. Maria Julius a présenté sa recherche, étude réalisée sur une période de 18 ans sur 372 femmes et 324 hommes. Ce phénomène Et cette recherche a fait donc apparaître que les femmes qui répriment des grosses colères ont un taux de mortalité 3 fois supérieur à celles qui donnent libre cours à leurs pulsions. Ce phénomène ne se vérifie pas chez les hommes. Les résultats de cette enquête montrent que le sexe des personnes est déterminant quant au lien éventuel entre colère non exprimée et risque de décès. Et une fois n'est pas coutume, une rubrique sportive. Commençons par la pêche. Saviez-vous que le plus gros saumon jamais pris en Angleterre pesait 29 kilos, qu'il a été attrapé en 1922 par une pêcheuse? Oui, Georgina Ballantyne, exploit dont se sont toujours enorgueillies les féministes anglaises. Eh bien, un professeur de neurologie soutient dans un livre que les poissons, et particulièrement le saumon, réagissent à des messages chimiques qu'on appelle les phérohormones. Or, ces agents qui sont émis également par les humains, chez lesquels on distingue les phérohormones mâles et femelles. Or, il semble que le saumon préfère les femelles, les femmes donc. Il apparaît tout à fait possible que les saumons soient capables de détecter les hormones sexuelles des femmes et d'être attirés par elles, dit le chercheur. Le messager chimique de la femme diffusé dans l'eau par l'intermédiaire de la canne, du fil et du hameçon attirerait le saumon. Alors mesdames, allez-y, partez, le saumon, c'est si bon. Et puis toujours dans notre rubrique sportive, un équipage britannique entièrement féminin, l'équipage du Maiden, conduit cette année par Tracy Edwards lors de la course autour du monde en équipage à voile, a été récompensé ce mardi à Londres. Le Maiden a été considéré comme le bateau de l'année. La Néo-Zélandaise, également Penny Way, qui a 28 ans et qui est victorieuse de 5 des 6 manches de championnat du monde du surf, a également été honorée. Après la victoire de Florence Artaud dans la course de la route du Rhum, le chanteur Renaud ferait mieux de revoir sa chanson qui dit « La mer ne prend pas les femmes qui préfèrent la campagne ». Et puis vous savez que bientôt nous serons recensés. Beaucoup de gens prétendent que mieux vaudrait fermer sa porte au recenseur. Alors j'ai découpé une lettre de lectrice que j'ai trouvée très intéressante. Il s'agit de Madame Regina Sautier-Reinsnick qui écrit « J'ai compris, Monsieur le conseiller Jacques Vernet, je suis les consignes. Les journaux, les médias, la gendarmerie vous le demandent à l'année, n'ouvrez pas votre porte. Eh bien, je n'ouvrirai pas ma porte au recenseur. Je tiens à préciser que je suis toute disposée à répondre à l'enquête, mais pas chez moi. Comment vais-je reconnaître le vrai d'un faux recenseur, même s'il me présente un carton qui paraît officiel. Selon les journaux à Genève, il y aurait déjà des faux recenseurs. Je ne suis plus une adolescente, j'ai 80 printemps. Raison de plus d'être prudente, n'est-ce pas? Je suis responsable d'un groupe d'aînés, nous n'ouvrirons pas notre porte, même si nous sommes menacés d'amende ou d'une visite à Chandelon. Toutefois, j'ai une suggestion. Dans chaque quartier, il y a des clubs d'aînés et des bureaux de vote qui pourraient certainement accueillir les recenseurs et nous les rencontrerions. » Et puis M. Spielmann aussi a une idée sur le recensement. Puisque les fiches qu'on reçoit de Berne sont toutes caviardées, eh bien pourquoi nous pourrions répondre au recensement en caviardant le recensement? Pourquoi pas? Bonne idée. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz.